Si c'est là, c'est ici.
Je suis de l'ethnie Alour, de territoire de Mahagi. Mais dans l'exercice de ma vie ou dans ma vie quotidienne, ça ne représente absolument rien du tout. Parce que j'ai été éduquée à la culture de l'acceptation de l'autre, que l'autre aussi a des valeurs. Donc en soi, en moi, ça ne veut absolument rien dire.
Petronille Vaweka, commissaire de district de l'Ituri. Vivre, c'est oser.
L'Ituri de 2003 qu'on m'a donné à gérer, c'était l'Ituri où les gens s'entretuaient, une haine tribale à l'extrême, tolérance zéro. Donc les gens s'entretuaient du matin au soir, du matin au soir, il y avait des... Les gens étaient déchaînés. Donc toutes ces horreurs de l'Ituri qui a finalement retenu l'attention du monde, la communauté internationale était saisie quand c'était devenu l'horreur. C'était la plus grande horreur après les génocides de Rwanda. La ville était divisée en deux, il y avait des parties pour tel groupe armé, l'autre pour telle autre armée. Donc les gens n'étaient pas chez eux, tout le monde était sous les bâches. Moi-même, je ne vivais pas. On n'avait plus de maison. Moi-même, je devais me cacher. On ne pouvait pas se laver, il n'y avait rien. Donc c'était le grand chaos. Ce que moi, je dis toujours, les gens parlent de l'apocalypse, mais je crois que nous, on l'a vu, l'apocalypse en Ituri. C'était ça, une situation extraordinairement... Je ne sais pas. J'ai toujours manqué de mots pour décrire ce qui s'est passé en Ituri. Parce que c'était extrêmement grave. Et moi, voilà, on m'a jeté là-dedans. Il fallait que je trouve des solutions, que j'aide les gens à aller vers la paix. Je crois que je l'ai fait aujourd'hui, l'Ituri. Les traces de la guerre sont presque effacées.
Aujourd'hui, nous allons rencontrer Petronille Vaweka, qui est commissaire de district de l'Ituri. L'Ituri est une vaste région du nord-est de la République démocratique du Congo. Depuis quelques années, cette région est ravagée par une crise indicible. Les civils ont été la cible de crimes à grande échelle. L'extrême barbarie et les violents affrontements entre les groupes armés ont décimé des populations entières dans cette région du Congo. Fille de pêcheur, née à Bunia, Petronille Vaweka a été nommée il y a 5 ans pour pacifier l'Ituri. Loin d'une gestion politique classique, Petronille Vaweka est une pacificatrice de terrain. Pendant son mandat, elle a été à la rencontre de tous les groupes rebelles violents et actifs afin de les amener à la table des négociations. Nous sommes allés rencontrer cette incroyable femme politique congolaise dans sa maison à Kinshasa, où elle vient enfin de retrouver les siens.
Donc on va parler un peu de la guerre en Ituri. Comment elle est née, cette guerre? Elle est la conséquence de quoi?
Bon, cette guerre, si on reprend mon contexte de naissance, j'ai commencé à découvrir un peu à Fataki qu'il y avait les Hema et les Lendu. Mais à ce moment-là, les Hema et les Lendu, il n'y avait aucun problème parce qu'on était ensemble. C'est à partir de 2003 que j'ai commencé à comprendre les problèmes de l'Ituri. Donc c'est une vieille histoire. Comme eux disent, ça remonte de 1911. Bon, qu'est-ce qu'il y a eu, Hema Lendu? D'autres accusent la colonisation, qu'ils ont plus favorisé les Hema par rapport aux Lendu. Mais je peux comprendre. Il y a eu une haine finalement, ils se sont mis à se combattre. On raconte dans l'histoire qu'ils s'entretuaient déjà. Donc la haine a commencé à entrer dans leur cœur. Alors je suis sûre que les faiseurs de guerre ont su qu'il y avait ça pour lancer la guerre en Ituri. Parce que je pense que les faiseurs de guerre en Afrique sont les mêmes. Ils prennent toujours le conflit ou la division qu'il y a entre les gens pour en faire un conflit. Parce que chaque fois, il y a des conflits. Regardez, il y a eu Sierra Leone, il y a eu Angola, il y a eu tous ces pays-là, Liberia. l'Ouganda, le Congo, Centrafrique, Somalie, Soudan. Pourquoi? Ça, c'est la question que je me pose. Moi, je crois qu'on est en train de fabriquer la guerre quelque part. Il y a un laboratoire pour fabriquer la guerre. C'est une politique véreuse qui utilise la mésentente qui est entre deux personnes pour les opposer. Alors moi, je crois que c'est la même chose. C'est quelque chose qui peut arriver n'importe où dans le monde. Du moment qu'on prend la différence des gens et on les manipule, ça marche à tous les coups. Et ça, ça peut être dans n'importe quel pays du monde. Parce que si les gens s'entretuent, c'est toujours ça. Cette différence qu'on crée, pourtant, il n'y en a pas et on peut faire la paix. Donc, pour moi, la question de Hem Alendu, leur conflit, ce n'était pas quelque chose d'extraordinaire ou bien de spécifique en Ituri. Ce sont des choses qui arrivent partout, comme les Flamands et les Wallons. Mais il suffit qu'il y ait une politique véreuse. Et puis demain, les gens vont s'empoigner pour rien. Pendant des années, ils ont vécu ensemble. C'est tout. Quand on a voulu me nommer commissaire, je ne connaissais rien de commissaire. Rien. Comment diriger la police, l'armée et tout ça. Mais du moment que j'étais commissaire, eh ben, j'ai vite appris que c'est ce qu'il fallait faire. Hein. Alors j'avais tout le monde en main. Et c'est parti. Et j'ai tenu l'Ituri. La MONU, communauté internationale, toutes les troupes, militaires, FARDC, police, tout ce que vous voulez, ben, je les ai tenus en main.
Petronilva Weka a tenu toute l'administration de l'Ituri. Elle, qui avait commencé un peu par hasard des études d'infirmière, et puis autodidacte qui avait glané à gauche à droite le plus de connaissances possibles, elle se retrouve désormais à la tête d'une des régions les plus meurtries de la République démocratique du Congo. D'une petite barque sur le fleuve Congo, elle va nous expliquer par quelles stratégies folles et risquées elle est parvenue à fédérer des entités jusque-là divisées, déchirées et loin d'être enclines à cheminer vers la paix.
Et je suis devenue du jour au lendemain, j'ai quitté mes enfants, une femme toute simple, et le soir je suis rentrée présidente de l'Assemblée spéciale intérimaire de l'Ituri. Parce que l'Ituri était coupée du gouvernement central à cette époque-là. Alors j'ai géré l'Ituri sans une autorité au-dessus de moi. Donc toute l'administration était dans mes mains. C'était une administration presque spéciale. Une administration qui s'intéressait plus à la sécurité, à la pacification, à la réconciliation, aux concertations, à remettre sur pied tous les instruments de l'administration, à la remise d'une justice, parce que tout cela n'existait plus, à la formation des administrateurs, parce que c'était une administration de rebelles qui n'avait plus rien d'une administration classique. Donc, je devais remettre l'appareil administratif en fonction. Voilà, tout devait fonctionner, parce que ça faisait des années que ça ne fonctionnait plus avec la guerre. Je n'ai jamais fait la politique du jour au lendemain. Tu es devenue présidente d'une assemblée. Et c'était des hommes qui s'entretuaient sur terrain. Alors concilier les idées, mettre tous ces gens-là ensemble, dont les gens qui étaient si divisés, qui avaient des raisons de diviser parce que leur famille était tuée, brûlée, donc ils vivaient des choses impossibles d'une intensité, hein. Ils vivaient sous émotion. Alors toutes ces émotions, je devais les gérer dans l'Assemblée. Donc arriver à un consensus, arriver à mettre les gens ensemble, tous devaient être ensemble. Pas une seule fois que j'ai interpellé les gens. Et qu'on m'a dit non. Je n'ai jamais enregistré un non en Ituri. Jamais. C'était toujours oui. Même si les gens étaient très divisés, mais c'était toujours oui, on vient. Et quand ils ne venaient pas, c'est moi qui allais vers eux et je les faisais venir à la table. Et finalement, ils venaient. Mais je sais que quand je parlais plus avec mon cœur. Parce que les gens qui venaient de tuer, de s'entretuer, de se battre et tout, je savais qu'ils avaient du sang sur la main. Mais comme la paix, il n'y avait pas de chemin, j'allais le voir et j'ai parlé avec eux. Des gens qui me détestaient, que moi aussi je n'aimais pas. Mais je devais faire un effort sur moi-même de composer avec eux. Parce qu'on ne peut pas faire la paix seul, on le fait ensemble. J'ai dû changer de comportement, changer de caractère, changer ma façon de voir. Moi qui aime la solitude et solitaire, j'ai dû Être obligé d'être social, de supporter, de tolérer. J'étais impulsif, mais j'ai dû changer. Parce qu'avec mon impulsion, j'allais tout foutre en l'air. Il fallait savoir attendre le bon moment. Et quand ça n'allait pas, trouver deux mots pour remettre après, pour concilier. C'est ça tout le jeu là que j'ai dû jouer. J'ai dû me changer moi-même pour changer les autres. Pour changer les autres, il faut changer soi-même. Sinon, on n'y arrive pas. Tu ne peux pas diriger les autres avec tes idées. Mais tu changes toi-même en épousant les idées des autres et puis en les amenant aussi à accepter tes idées. Donc, je crois que c'est un consensus qu'on doit avoir dans ce monde. Ah, c'est très difficile parce que je faisais un peu comme une folle, hein? Parce qu'il fallait que je sois folle. Parce qu'aujourd'hui, je vois les choses que j'ai faites, mais il faut être vraiment timbré, hein, pour le faire. S'il y avait des groupes armés quelque part, ils se battaient, ils faisaient tout ce qu'ils voulaient faire. Si je ne parvenais pas à les avoir, ben j'allais vers eux, avec tous les risques que cela comportait. J'allais négocier pour les autres. Je vais vous donner un exemple. Bon, il y avait un groupe armé qui n'acceptait pas que les gens aillent aux élections. Parce qu'il fallait mettre le doigt dans une encre indélébile. Comme ça, on saura que tu es déjà passé pour que tu ne reviennes pas deux fois. Alors, il y a un groupe de milices qui coupait le doigt ou la main à ceux qui s'étaient enrôlés. Et si les Ituriens ne vont pas aux élections, parce que personne ne croyait que les Ituriens pouvaient passer aux élections vu l'insécurité et tout ce qui se passait, les groupes armés étaient encore très actifs. Alors, j'ai décidé d'aller négocier que les groupes armés laissent les gens aller s'enrôler sans qu'ils soient inquiétés. Et je ne quittais pas tant qu'ils ne me donnent pas l'assurance qu'ils vont laisser les gens tranquilles. Je dis, bon, vous voyez ce que vous avez détruit, les morts et tout ça. Mais si vous allez avec moi à la paix, voilà ce que vous aurez. Alors là, souvent, les gens marchent parce qu'ils marchaient pour eux. Et que les hommes ne sont pas si mauvais que ça, qu'il y a quelques dents, même dans un assassin, un homme le plus mauvais, il a quelque chose de bien qui est en lui, mais il faut aller le chercher. Et souvent, on va le chercher très loin. Et il faut être patient parce que ce n'est pas visible. Il faut aller très loin pour aller chercher le bien qui est caché dans quelqu'un. Et souvent, la violence cache une détresse, ça cache un traumatisme, une déception, qui est souvent vue comme la violence, mais derrière, c'est un être humain. Et souvent, les gens ne sont pas patients. Ils ne savent pas aller chercher. Ils ne savent pas écouter. Ils ne savent pas mettre quelqu'un dans des dispositions pour que lui-même vous dise ce qu'il veut, ce qui le dérange, ce qu'il souhaiterait. Oh, moi, j'ai appris ça. Aller chercher le bien qui se trouve dans tout être humain parce que cela existe. Un jour, mais vraiment, c'était un endroit dans les collines, je n'ai jamais été. Et le chef de mes gardes-corps, il me dit, mais cette fois-ci, tu ne vas pas aller, c'est dangereux. Je dis, mon œil, quel est le danger que nous n'avons pas affronté? Plus tard, quand je leur disais ce qu'on va faire une mission, ils disaient, non, je suis malade. Je disais, je comprends, tu as la trouille. On est parti et puis on a commencé à nous indiquer un endroit où il n'y avait pas de chemin, pas de route. Le chauffeur m'a regardé, je dis, non, tu y vas. On a trouvé qu'il y avait un village caché. J'ai entendu parler de ce village, mais je ne savais pas qu'il y avait autant de gens. Il y en avait beaucoup. Alors, j'appelle tout le monde, je dis, allez, dans la maison. Et alors, où sont les armes? Silence. Où sont les armes? Silence. Je dis, ok. Tu ne dis rien? Moi, je m'en vais. Là, ils ont tout de suite dit, mais on les a cachés. Je dis, pourquoi? Ils disent, mais parce que la FARDC passe ici. Les militaires passent. Je dis, mais c'est de votre faute. Depuis longtemps qu'on vous demande de sortir. Je dis, mais ils sont méchants avec nous. Je dis, mais vous aussi, vous êtes méchants. Je dis, bon, sortez tout ce que vous avez. Je vous assure, il y en avait. Hein? Des kalachnikovs, des grenades, des roquettes et de tout ça. Bon, des bombes de toutes sortes. Bon, entre-temps, moi, je saluais, je parlais avec les femmes, avec les hommes. Tout le monde, c'était comme une petite fête là. Et on se met à bavarder. Comment ça va, etc. Oh, on ne savait pas que tu pouvais venir, etc. Ben, c'était vraiment une belle journée, là, comme on en a eu hier. Et alors, quand ils avaient tout placé, j'ai dit au chauffeur, monte, je vais leur jouer une blague. Ah, je monte dans le véhicule avec les gardes-corps, j'ai dit, fermez la porte. Je dis, mes chers amis, vous en avez tellement tué qu'aujourd'hui, je vais vous laisser tuer aussi. Donc, j'amène les armes, mais vous, je vous laisse là. J'ai vu qu'ils avaient des larmes qui ont commencé à couler de leurs yeux. Je dis, ah bon, je ne savais pas que les assassins pouvaient pleurer. Vous avez tué des gens sans pitié. Et vous, devant la mort, vous ne pouvez rien faire. Vous avez peur de mourir. Pourtant, vous avez vu la peur de mourir devant les yeux de certaines personnes, des femmes et des enfants. Vous n'avez pas eu pitié. Vraiment, il pleurait. J'ai dit, bon, ça va, je ne suis pas mauvaise. Allez, je vous donne 2 secondes pour monter. Ils ont sauté dans le véhicule parce qu'ils n'osaient pas rester. Alors, c'était entassé, mais je ne sais plus combien on était. Ils étaient assis sur leurs bombes. Alors, comme on allait, hein, il y avait des monticules, tout ça, il n'y avait pas de route. Alors, il disait au chauffeur, ah, roule doucement. Je dis, non, roule en trompe, comme ça, on saute. Moi et vous, aujourd'hui, c'est fini. Alors, je voyais leurs yeux. Pas un ne m'a déçu. Alors, je ramassais sans distinction, Hema, Lendu ou autre ethnie. C'était ça, mon travail. En 2003, j'ai fait tous les camps de tous les groupes armés. Alors j'allais dans les camps des milices pour aller les décider à désarmer. Et ça a marché. Vous savez qu'il y a eu la FRDC, donc la force gouvernementale, et les milices qui étaient encore en brousse. Alors chaque fois, les milices qui me disent, mais la personne qui va te tuer, cette personne-là, on va le chercher. Alors il y aura la plus grande guerre de l'Ituri, que personne ne touche à un seul de tes cheveux. La force gouvernementale disait la même chose. Le jour que ces milices vont toucher à un seul de tes cheveux, c'est ce jour-là. Je dis, mais finalement, vous dites toutes la même chose. Donc vous êtes tous les mêmes. Pourquoi est-ce que vous ne faites pas la paix? Pourquoi est-ce que vous battez finalement? Ou bien je disais, mais qui est en face? Elle me disait, mais on va te tuer, c'est dangereux, ne reste pas là. Je dis, si, puisque vous, vous êtes au front, je suis là. Mais dites-moi, qui est en face? Et je cherchais qui était la milice qui se battait de l'autre côté. J'ai dit, toi, arrête, hein, parce que je suis là. Ou bien, dès qu'ils attendaient que j'étais là, ben, ils ne se battaient plus, de peur qu'une balle m'atteigne. Donc, c'était ça. Mais les gens de la MONUC, eux, dès que ça allait mal, ils entraient dans leur char, Petronil, qu'elle soit là, pas là. C'est son problème, hein? Mais eux étaient dans leur char. Le plus mauvais souvenir, c'est quand je suis arrivée dans un camp, je ne sais plus. Hein? Les femmes et les enfants, tout le monde était très sale. Je dis, tiens, mes frères et sœurs, comment vous pouvez avancer dans cette vie ici? Vous ne donnez pas de chance à vos enfants, ni à vous-même. Vous vivez comme des animaux, pendant que si vous sortez, vous avez des chances de reprendre la vie civile et d'être vraiment en paix. Donc la paix, c'est ça. Donc une vie meilleure, vous allez circuler, vos enfants pourront aller à l'école. Moi, ce que je vous offre, c'est la vie de citoyen dans la dignité au lieu de la vie de maquis dans la misère que vous avez. Donc, dans tous les camps que j'étais passé, j'ai tenu le même langage. Et j'ai essayé surtout de ne jamais juger personne. Ça, c'était difficile. Quelqu'un qui fait des choses abominables, mais tu ne le juges pas. Au contraire, tu en fais un allié pour le sauver. Un allié pas pour toi, mais pour lui-même. Qui lui récolte le bienfait. J'étais en danger chaque fois parce que quand ce sont les Lendu qui contrôlaient la ville, j'avais les Hema qui fuyaient chez moi. Quand c'est les Hema qui contrôlaient la ville, c'était les Lendu qui étaient chez moi. Je sais que ça peut nous apporter la mort, mais soyez prêts à mourir parce que je vais chasser personne. Rien ne pouvait m'arrêter. J'étais comme un boulet, comme un... Rien ne pouvait m'arrêter. Pour que la paix ne revienne pas en Ituri. Rien. Je n'ai peur d'aucun humain. J'ai peur de rien. Je suis sûre de ma vie. Je crois. Parce que j'ai passé dans des dangers impossibles. Mais qui me protégeait? Dieu, c'est quoi? Dieu, c'est une harmonie entre l'esprit, l'âme et le corps. Dès qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ces trois éléments, ça ne va pas. Parce que la spiritualité, c'est ça. C'est une harmonie. Une harmonie avec la nature, avec les gens. L'important, c'est que nous avons tous du sang rouge. Pourquoi? C'est ça l'important pour moi. Donc, nous sommes tous les mêmes. Et l'important, c'est de croire que ce n'est pas par hasard qu'un être humain naît en vie. Chaque être humain est né pour faire quelque chose. C'est cette force de l'être humain. Et puis, ils sont liés les uns par les autres. Je dis peut-être trop, on ne va pas retenir tout ce que je dis, mais en un mot, on doit respecter l'homme. Il n'y a rien de plus fort que l'homme, dans sa divergence, mais dans un ensemble. Personne ne peut vivre seul, et ceux qui vivent seuls n'y parviennent pas parce qu'ils ont envie de quitter la vie. Donc la vie, c'est un ensemble, avec les autres, pour les autres.
C'était Petronille Vaweka. Vivre, c'est oser. Si c'est là, c'est ici. Une série d'émissions proposées et produites par RCN Justice et Démocratie. Réalisée par Pascaline Adamantidis. Mixée par Olivier Ruten. Sur une musique de Daniel Stockard. Cette émission a été réalisée avec le soutien du Service public fédéral des affaires étrangères, du commerce extérieur et de la coopération au développement en Belgique.